Bon après-midi à l'antenne de 101.9 FM CHI. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Mon nom est Charles-Antoine Marcotte et il me fait plaisir d'être avec vous jusqu'à 18h. On est maintenant rendu à la chronique jeux vidéo de Mario Ramos. Comment ça va, Mario?
Ça va très bien, et toi?
Bien, merci. J'ai pensé à toi cette semaine parce que la première nouvelle que tu nous abordes, une nouvelle qui est sortie en début de semaine, et dès que je l'ai vue, j'ai pensé à toi. C'est concernant Microsoft qui achète Activision Blizzard. Et ça, c'est une grosse transaction, là.
Oui, en fait, c'est la plus grosse transaction de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo et de loin. La plus grosse qu'il y avait eu avant ça, c'était justement Zynga, en fait, la semaine passée.
Exact.
Take-Two qui avait acheté Zynga pour 12 milliards, puis on avait dit, hey, c'est beaucoup d'argent.
Ouais.
Mais là, donc Microsoft fait l'acquisition de Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars US. Donc, c'est je sais pas combien de fois plus que la transaction de Zynga, mais c'est énormément, énormément d'argent.
Mm-hmm.
L'acquisition n'est pas complétée. On s'entend là, quand une acquisition aussi grosse, il y a des étapes. Je pense qu'il va falloir que ça passe devant une commission qui va déterminer est-ce que ça crée un monopole ou pas. Donc, toute la transaction, tout devrait se compléter d'ici 2023. Mais de la façon que ça a été annoncé et tout, ça semble pratiquement chose certaine.
Mm-hmm.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Microsoft, évidemment, c'est le Xbox. Donc là, ils ont Activision, Blizzard et King. Et
King qui avait fait Candy Crush, me semble.
Oui, c'est ça. Puis évidemment, ces compagnies-là, c'est des éditeurs qui ont toutes sortes de petits, plus petits studios qui mm-hmm. travaillent sur toutes sortes de franchises. Donc, on parle de Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, StarCraft, Crash Bandicoot et nombreuses autres. Là. Donc, c'est énorme. Et tout ça passe donc sous le giron d'Xbox. Est-ce que ça veut dire que toutes ces franchises-là deviennent exclusives à Xbox? Non, ça veut pas dire ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce qui a été faite à cet égard. Tout ce que Phil Spencer, qui est le PDG de Microsoft Gaming, a dit, c'est qu'évidemment, on veut amener le plus de jeux possible d'Activision Blizzard sur la Game Pass. Donc.
Mais comme tu dis, justement, ça fait que Microsoft a un certain capital dans le monde du jeu vidéo, là.
Oui,
c'est encore plus difficile pour les petits exploiteurs.
Ben, pas nécessairement. Mais c'est sûr que ça devient. Si tu as déjà un géant, il devient encore plus un géant. Est-ce que ça rend ça les choses plus difficiles pour les autres? Pas nécessairement. Il y a encore des géants plus gros que les autres. Là. Même avec cette transaction-là, je pense qu'ils sont troisièmes. Sony reste plus gros et Tencent. On n'entend pas souvent parler de Tencent parce que c'est un éditeur, c'est une compagnie chinoise, mais qui se met pas tant de l'avant, mais qui a acheté vraiment beaucoup de compagnies aussi. Donc Sony puis Tencent restent quand même plus gros que Xbox, juste pour te donner une idée. Mais évidemment, ça va être très intéressant pour les abonnés du Game Pass, donc ils vont voir souvent, peut-être même avant que la transaction soit vraiment complétée. Ce serait possible de commencer à avoir des jeux de Blizzard et Activision sur la Xbox Game Pass.
Mm-hmm.
Ça veut pas dire, est-ce que ça veut dire que maintenant Call of Duty sortira plus jamais sur PlayStation? Ça veut pas nécessairement dire ça. On peut pas se prononcer en ce moment. Parce que, tu sais, Microsoft ont quand même une grande ouverture à sortir leurs jeux sur la plateforme. Il y a des jeux de Microsoft Studios sur Nintendo Switch. Il y a Minecraft, il y a Ori and the Blind Forest. Donc, ils ont une approche quand même différente. Xbox, ils sont plus tant dans la business de vendre des consoles, ils sont plus dans le business de vendre des abonnements au Game Pass. Donc, il faut pas nécessairement, comparer directement avec Sony ou avec Nintendo parce que c'est vraiment une stratégie différente.
C'est intéressant, Mendari. On change de sujet maintenant. On s'en va maintenant dans les équipes nationales de jeux en ligne. Tu nous parles de Mirage Elandra.
Donc, Mirage Elandra, au fond, Mirage, à la base, Mirage Sport Electronics, c'est une équipe e-sport québécoise.
Mm-hmm.
Au fond, c'est une organisation de e-sport qui ont plusieurs équipes dans différents jeux, dont League of Legends. Et là, la Mirage Elandra, au fond, c'est une fusion entre Mirage, une équipe de Mirage et une équipe française, l'organisation française Iliandra, ce qui fait en sorte que Mirage peut compétitionner dans une ligue professionnelle française, la League of Legends. Et là, ils ont commencé, puis ils ont eu un très bon début. Ils ont battu une des meilleures équipes de cette ligue-là. Donc, c'est à surveiller, c'est intéressant. Ça va être des choses à surveiller dans le monde du e-sport en 2022.
Et pour continuer maintenant, on parle beaucoup dans les chroniques à quel point les fans parfois prennent les initiatives avant les grosses compagnies. Et là, c'est un geste de fan alentour de Tomb Raider. Le Tomb Raider original, porté sur la Game Boy Advance, et ça a été conçu par des fans. Donc, des fans ont transformé le jeu pour la Game Boy.
Oui, ben, donc c'est des fans, mais évidemment des fans avec beaucoup de connaissances techniques. Puis c'est toute une prouesse technique d'amener le Tomb Raider original sur Game Boy Advance, parce que le Game Boy Advance n'est pas fait pour gérer du 3D. Donc, en fait, le Game Boy Advance ne peut pas gérer du 3D. Donc, ils ont fait une espèce de tour de passe-passe où est-ce que les éléments 3D sont quand même représentés en 3D, mais ils sont... En tout cas, c'est difficile à expliquer, mais ils ont réussi à porter le jeu pas au complet. Là, je pense qu'il y a juste les trois premiers niveaux pour l'instant qui sont fonctionnels. Évidemment, c'est pas un jeu qui va sortir officiellement sur Game Boy Advance, donc c'est vraiment plus des fans qui font ça pour le fun. Mais c'est toute une prouesse technique et ça montre à quel point quand même le Game Boy Advance c'était plus puissant qu'on pensait. Tu sais, c'est juste des années plus tard que tu arrives à atteindre, tu sais, si on veut, la capacité de ce que tu peux réellement faire avec une console. Tu sais. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est le fun surtout pour la prouesse technique que ça représente.
Mais exact, c'est assez impressionnant en soi. On va continuer avec Sony qui dépose un brevet de technologie de rétrocompatibilité. C'est moins difficile, comme dirait le premier ministre,
ouais,
c'est difficile.
Ouais, c'est ça.
Mais avant toute chose, peux-tu nous expliquer c'est quoi la rétrocompatibilité?
Rétrocompatibilité, c'est de rendre jouable des jeux de ancienne génération sur nouvelle génération.
Un peu comme tu avais parlé pour la Nintendo Switch, me semble, c'est ça?
On a surtout parlé d'Xbox, je pense, du côté d'Xbox en ce moment, tu sais, il y a une liste de jeux rétro-compatibles de la Xbox originale, de la Xbox 360 et de la Xbox One que tu peux jouer sur la Xbox Series, par exemple. Du côté de Sony, la rétro-compatibilité, on a moins développé ça que du côté d'Xbox. En ce moment, tous les jeux PS4 fonctionnent sur PS5. Mais tu peux pas mettre ton disque de PS1, PS2 ou PS3 dans ta PS5. Là, Sony ont déposé un brevet. Ça veut techniquement rien dire en tant que tel, dans le sens qu'ils peuvent déposer un brevet, mais ça veut pas dire que la technologie va être développée. Ou est-ce que c'est une technologie qu'ils avaient déjà? Est-ce que c'est juste un brevet à propos de la technologie d'avoir les jeux PS4 sur PS5 qui vient juste d'être accepté, donc qui est listé comme brevet? On le sait pas, mais ça veut peut-être dire que Sony travaille à rendre rétro-compatibles les jeux de PS1, PS2, PS3 sur PS5. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Le dépôt d'un brevet ne veut pas dire que la technologie est développée ou déployée.
Exact.
Donc, mais un autre indice qui est sorti par rapport à ça, il y a des gens qui ont spoté sur le PS Store de la PlayStation 5 des jeux PS3 qui sont maintenant listés, qui ne sont pas encore accessibles, tu ne peux pas encore les acheter, mais ils sont listés. Est-ce que ça veut dire que ça s'en vient? Probablement, peut-être au moins pour les jeux PS3.
Intéressant. Surtout justement la possibilité, parce que ce n'est pas tous les jeux qui sont redéveloppés pour des nouvelles consoles. Donc, au lieu de payer beaucoup d'argent pour une vieille console, tu peux avoir ça facilement.
Ouais. Il y a quand même des jeux de génération antérieure, PS1, PS2, PS3, qui sont disponibles en ce moment sur PS5 à travers le service PlayStation Now, mais c'est du streaming.
Mais il faut payer pour ça.
Oui, ça prend un abonnement. Puis c'est du streaming. Certains jeux, tu peux télécharger si le jeu a vraiment été porté sur une nouvelle console. Mais donc, est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, tu vas pouvoir mettre ton disque de jeu PS3 dans ta PS5,
ouais,
un peu comme tu peux le faire sur Xbox en ce moment? Peut-être. On espère que oui, la rétrocompatibilité, je pense que c'est une bonne chose, surtout du point de vue consommateur. Ça veut dire que ton jeu que tu as acheté il y a 10 ans, ben, tu peux encore t'en servir le disque physique, là. Donc, à voir.
À
On va
voir.
suivre.
On va se laisser là-dessus. Mario Ramos, notre chroniqueur jeux vidéo, qui est venu nous faire un suivi du monde du jeu vidéo. Merci beaucoup de nous en parler au 101.9 FM.
Ben, merci à toi.